Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous. Si on connaît bien désormais le terme homophobie, celui de transphobie est moins familier. Il désigne les marques de rejet, de discrimination et de violence à l'encontre des personnes transsexuelles ou transgenres. Il y a 2 mois en France, l'adoption de la loi Justice au XXIe siècle devait faciliter le changement d'état civil pour les personnes transgenres et transsexuelles, notamment en démédicalisant la procédure. Mais pour les quelques 50 000 personnes concernées en France, beaucoup d'interrogations demeurent. Le reportage de Laurence Théo.
Elle s'appelle Hélène, Sophie et Diane, mais ne comptaient pas sur elles pour connaître le prénom masculin de leur naissance. Elles ne diront pas si elles ont été opérées ou non et parleront encore moins de leur sexualité. Hélène, Sophie et Diane ont souffert et souffrent encore de transphobie. Hélène Azéra fut la première femme transgenre journaliste. Elle anime aujourd'hui une émission sur France Culture. Elle revient sur une époque où les transgenres étaient perçus comme des malades mentaux.
Vous allez sur Internet, vous faites trans, transsexuel, Ville-Évrard. Vous avez le récit d'une personne qui rentre vers 1945 à Ville-Évrard. Et ça se termine 5 ans après, où on lui a administré électrochoc sur électrochoc. On lui a fait une lobotomie et elle meurt à la fin. Elle a une crise cardiaque sous électrochoc. C'est une personne qu'on a torturée. Il n'y a pas d'autre mot.
Depuis ces temps obscurs, il y a eu des avancées. Mais elles sont loin d'être suffisantes. Et ce qui préoccupe aujourd'hui les transgenres, ce sont les difficultés pour obtenir le changement d'état civil. Là-dessus, la France est très en retard. Si le texte de loi est définitivement adopté par l'Assemblée nationale à la fin de l'année, les personnes transgenres n'auront plus besoin de fournir un certificat médical prouvant leur traitement hormonal et leur changement de sexe. Ce n'était pas le cas auparavant. Regard doux mais déterminé, Sophie Lichten est la porte-parole d'Existrance.
La jurisprudence qui était en vigueur précédemment, avant la loi, obligeait la personne d'être stérile pour obtenir ses papiers. C'est-à-dire, quand je dis stérilité, c'est l'ablation des organes génitaux. Donc, beaucoup d'entre nous se faisaient opérer rien que pour avoir une intégration sociale, ce qui est complètement aberrant. Alors que ces personnes-là n'avaient pas forcément besoin d'une chirurgie génitale.
Mais les personnes concernées parlent d'avancées rétrogrades, puisque le changement d'état civil sera toujours soumis à l'arbitraire d'un juge, alors que les militants exigent que ce changement se fasse tout simplement en mairie. Sophie Lichten n'a toujours pas ses papiers. Elle évoque les difficultés à trouver un travail, un logement, et aussi les humiliations incessantes.
Puis je m'étais arrivé d'être à l'hôpital et de me retrouver devant une secrétaire médicale qui me donnait les étiquettes, une fonctionnaire de l'hôpital, et puis... Elle s'est fait son petit plaisir très transphobe d'énoncer mes 2 prénoms masculins à voix haute devant toute la salle d'attente. Mais cette violence peut se traduire par de nombreuses personnes qui m'ont écrit en disant « j'en ai marre, on m'a souvent appelé monsieur à l'hôpital, je ne vais plus me soigner ».
Et les moqueries sont nombreuses car les transgenres ne sont pas égaux. Il y a ceux qui n'ont pas eu la possibilité de faire de la chirurgie, c'est un véritable parcours du combattant, ou alors des transgenres femmes par exemple qui gardent un physique très masculin. Ce n'est pas le cas de Diane Avril, cheveux courts sur minois fin, elle est très féminine. Elle explique que vouloir changer de genre n'est pas un caprice. Diane Avril a 50 ans, elle s'est mariée et a élevé 2 enfants en tant que père.
Je ne sais pas ce que c'est qu'être papa, j'ai toujours été une maman. Le médecin de famille me l'a confirmé. Mes enfants me l'ont dit quand je leur ai annoncé. Ils m'ont dit « mais papa, on a toujours été élevés par 2 mamans, on le sait ». Donc c'était évident pour eux, pour moi, moins, parce que je savais que c'était douloureux. Et du coup, j'ai attendu quand même de leur donner une stabilité au niveau de l'éducation pour franchir le pas, parce que je savais que derrière, je m'étais informé, il y allait y avoir beaucoup de souffrance, beaucoup de possibilités de séparation. Donc c'est vraiment des choix pesé, réfléchi, qu'on ne peut pas faire quand on est enfant, quand on a tous les freins. Quand on est enfant, si l'enfant peut l'exprimer, heureusement qu'il y a beaucoup plus d'informations, quand l'enfant peut l'exprimer, il faut l'accompagner, il faut l'aider, il ne faut pas lui dire « c'est pas bien », etc. Il n'y a pas de « c'est pas bien », il n'y a pas à avoir honte d'être qui l'on est.
Le mot de la fin revient à Hélène Azéra, militante de la première heure.
Souffre trop. Il faut comprendre que c'est toute une communauté qui est anathémisée. Pourquoi vous nous faites tant de mal ?
Et dans ce grand éclat de rire, la journaliste expliquera que c'est toutefois un bonheur invraisemblable d'être enfin soi-même.
Reportage de Laurence Théo. J'ajoute que plusieurs pays ont réussi à faire adopter le changement d'état civil en mairie, notamment le Danemark, Malte. En Irlande, les personnes de plus de 18 ans pourront bientôt changer leur état civil sur simple déclaration. Depuis plusieurs années, les colonies d'abeilles sont en forte disparition. Elles sont même désormais classées comme espèces menacées. Des insectes très sensibles à certains pesticides et autres pollutions. Une start-up de la région de Bruxelles en Belgique a eu l'idée de se servir de ces abeilles comme marqueur de cette pollution, Laxmi Lotha.
L'environnement est désormais surveillé par des abeilles. L'avantage des butineuses est leur capacité à couvrir une très grande surface. Pour se nourrir, une colonie d'abeilles est capable de butiner plus de 4 milliards de fleurs par an sur une surface moyenne de 700 hectares, explique la société Biodiversity. Elle récolte une multitude d'échantillons, pollen, nectar, eau, en provenance des fleurs. Une fois ramenés à la ruche, ces échantillons vont être analysés. Quels métaux lourds, quels pesticides, y a-t-il suffisamment de diversité végétale dans la région ? Les concepteurs espèrent pouvoir cartographier plus de 80% de la superficie régionale. À terme, il s'agira aussi d'identifier d'où viennent ces pesticides et ces métaux lourds et de voir comment y remédier pour la santé des consommateurs également. La société voudrait créer un cercle vertueux d'analyse de l'environnement avec différents acteurs, apiculteurs, agriculteurs, citoyens, institutions et scientifiques. Elle pourra par exemple conseiller et sensibiliser certaines communes sur les fleurs à planter pour assurer une meilleure biodiversité. Les premiers résultats d'analyse paraîtront en début d'année prochaine.
Bonjour Eve Minot.
Bonjour Laurent.
Les dernières élections nationales et européennes ont permis de constater que les jeunes Européens vont de plus en plus rarement voter pour désigner leurs représentants au Parlement. Et l'une des raisons les plus souvent avancées est qu'ils ne se sentent pas vraiment représentés par les députés et par ceux qui aspirent à le devenir.
Oui, ce n'est pas qu'une vue de l'esprit, puisqu'en effet, la population jeune est souvent mal, très mal représentée au sein des institutions démocratiques. Une nouvelle campagne pilotée par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, lancée fin novembre, vise justement à faire prendre conscience aux jeunes du monde entier et aux autres que « yes, they can ». Selon cette campagne, près de 50% de la population mondiale a moins de 30 ans, et pourtant, c'est seulement le cas de 2% des élus, tous pays confondus.
Alors, est-ce que ces chiffres collent aussi à la réalité européenne ?
En France, c'est particulièrement frappant, souvent hommes, blancs et surtout au minimum quinquagénaires. Les députés et les sénateurs sont très loin de représenter la jeunesse de leur pays. Lors des dernières élections, seulement 0,35% des députés ont moins de 30 ans, soit même pas l'équivalent d'un demi-député. Chez les 50 et plus, ils sont 68%. Aujourd'hui, la seule à ne pas encore avoir soufflé ses 30 bougies au Parlement, c'est Marion Maréchal Le Pen, élue FN du Vaucluse, qui est, comme chacun sait, tombée dedans quand elle était petite, alors que, rappelons-le, les 20-30 ans représente aujourd'hui en France plus de 12% de la population totale.
Oui, et le plus étonnant, Eve, dans le cas français, c'est que l'âge des députés n'a, lui, cessé d'augmenter depuis 1988.
Eh oui, ça peut sembler étonnant, mais c'est tout à fait exact. En 1981, les députés avaient en moyenne 48 ans contre plus de 54 aujourd'hui, alors que l'âge pour être élu n'arrête pas, lui, d'avancer, enfin de rajeunir. Mmh. Pour les futurs présidents de la République, il a même été abaissé à 18 ans en 2011. L'âge moyen des élus baisse quand même en fonction de l'importance du mandat électoral. On retrouve ainsi près de 20% de moins de 40 ans dans les conseils municipaux, le plus gros vivier de jeunes élus.
Est-ce que la tendance est la même dans les autres pays européens, Eve ?
Globalement, plutôt, oui. Les élus les plus jeunes se trouvent dans les communes, même si quelques partis récents ont un peu rebattu les cartes en faisant élire de nouvelles têtes. C'est le cas du FN en France, j'en parlais tout à l'heure, le parti de la plus jeune députée du pays, mais aussi du parti pirate en Allemagne, en Suède, ou encore de Podemos en Espagne, qui a récemment fait la une des journaux européens avec ses nouveaux élus, souvent piochés parmi les moins de 35 ans. Au Royaume-Uni, la jeune Mairi Black, 22 ans, élue écossaise au Parlement britannique, est un véritable phénomène. Mais soyons honnêtes, cet exemple, c'est un peu comme on dit, un arbre qui cache la forêt.
Et qu'en est-il au niveau des institutions européennes ?
Alors au sein de l'UE, il existe un groupe parlementaire qui réunit les plus jeunes eurodéputés et celui-ci est ouvert au moins de 40 ans, c'est dire. Au total, ils sont 91 à remplir ce critère depuis les dernières élections, un peu plus de 1 sur 10. Ce n'est déjà pas beaucoup et en plus, ce nombre est en baisse par rapport à la précédente législature.
Bien, merci beaucoup Evmino, à très bientôt sur Accent d'Europe.
À la semaine prochaine.
Si vous passez dans le sud-est de l'Albanie, tout près de la frontière grecque, ne soyez pas trop surpris de découvrir le Petit Paris, surnom donné à la ville de Korçë. Il y a un siècle tout juste, le 10 décembre 1916, en pleine Première Guerre mondiale, la France mettait en place une république autonome pour s'opposer à l'Autriche-Hongrie. Que reste-t-il de cette éphémère présence française? C'est un reportage de Simon Ricaud.
Le soleil d'hiver pose ses premiers rayons sur le clocher de la cathédrale orthodoxe de Korçë. À quelques centaines de mètres de là, dans le vieux quartier ottoman, un grand bâtiment se dresse au milieu du dédale de petites ruelles pavées. C'est le lycée français, fermé en 1971, l'un des symboles de la présence française dans la ville. Sarah étudie dans une classe bilingue du nouveau lycée Ratchitirinji.
Il y a un lien très important avec la France et les Français. Et ça a commencé avec l'arrivée de l'armée française ici à Korçë, après avec la déclaration de Korçë comme république autonome.
Dans les rues du centre-ville, de nombreux fanions ornent les lampadaires pour honorer le centenaire de la déclaration de la république autonome de Korçë. Après les grandes cérémonies du 11 novembre dans le cimetière militaire français, là où reposent 640 soldats, majoritairement des troupes coloniales morts pour la patrie, la mairie et l'ambassade de France organisaient 10 jours de festivités du 1er au 10 décembre. Kristach Georgi, professeur de littérature albanaise à la retraite, collectionne les souvenirs de cet éphémère état indépendant. Il a supervisé l'exposition sur cette histoire méconnue hors des frontières albanaises.
Les relations entre les Albanais et les Français étaient excellentes. La situation économique favorable de la République autonome a facilité leur entente. Ces bonnes relations ont perduré, même après la guerre.
Le 10 décembre 1916, la République autonome de Korçë est proclamée. Les drapeaux français et albanais flottent alors ensemble au-dessus de la ville. L'armée française voulait surtout reprendre ce petit territoire aux mains de rebelles grecs en vue de la bataille décisive qui allait se jouer en Macédoine pour l'issue de la Première Guerre mondiale. Mais un siècle plus tard, l'Albanie n'a pas oublié le soutien de la France. Tommy Mihal, la cinquantaine, enseigne l'histoire à Korçë.
À la République, elle a donné l'occasion de créer une administration bien albanaise, donné l'occasion d'avoir la frontière partagée avec l'État grec. Deuxièmement, avoir l'occasion créer une culture, créer des écoles albanaises. Autrement dit, a donné l'occasion et l'espérance des Albanais que l'indépendance de l'Albanie sera connue par les grandes puissances.
Dès janvier 1917, les actes officiels sont signés de l'Albanie autonome. La République de Korçë affirme en effet sa volonté d'apparaître comme la continuité de l'État albanais déclaré un peu plus de 4 ans plus tôt. Des timbres-poste sont édités et une monnaie, le franc albanais, est frappée. L'histoire de ce petit état a pris fin le 5 juin 1920, mais durant l'entre-deux-guerres, le lycée français de Korçë a continué de diffuser l'influence de la France en Albanie en formant toute l'élite du pays. Le très francophile dictateur communiste Enver Hoxha, qui gouverna d'une main de fer entre 1945 et 1985, y fut par exemple élève puis enseignant. Aujourd'hui, une section bilingue a rouvert avec le soutien de la francophonie, comme l'explique la professeure Violandi Stoya.
Vu qu'à Korçë, il y a une tradition francophone, et on a décidé à faire des classes bilingues dans le lycée Ratchitirinji. Ici, il y a 3 classes bilingues, ça fonctionne depuis 1998. Les élèves qui ont terminé donc se sont munis à la fin des études d'un diplôme. Et voilà, ils suivent des études ou bien dans un pays francophone, ou bien même en Albanie.
Depuis la chute du régime communiste, l'anglais ne cesse de gagner du terrain sur le français en Albanie. Même à Korçë, il devient de plus en plus rare de croiser des locuteurs de la langue de Molière. Si elle avoue avoir choisi d'apprendre le français un peu par hasard, Sarah se passionne pour tout ce qui vient de Paris.
Par exemple, Les habitants de Korcha sont influencés par la culture française, la littérature, la musique, la mode. Donc, partout dans la ville, on trouve quelque chose inspiré par la France.
Voilà des propos qui auraient sûrement plu au colonel Descoings, le Français qui s'est battu pour la création de la République de Korcha. 100 ans plus tard, le petit Paris d'Albanie honore fièrement sa mémoire et celle de son éphémère État autonome. Mais pas un seul portrait du colonel Descoings n'est visible dans la ville. La raison est simple, aucune photo de l'officier français n'a jamais été retrouvée.
Tout est bon dans le cochon, dit l'adage. On peut même désormais en faire du carburant. En Finlande, la firme pétrolière Neste propose de recycler les graisses de cuisine produites à Noël. Et c'est loin d'être anecdotique, Pauline Curté.
Pour les Finlandais, le principe est simple. À Noël, ils cuisinent leur jambon rôti, le plat traditionnel du pays nordique. Le lendemain, ils déversent la graisse produite pendant la cuisson dans une boîte recyclable fournie par l'entreprise Neste. Il ne leur reste plus qu'à les déposer dans l'une des stations de la compagnie. Cette dernière s'occupera ensuite de transformer cette graisse en biocarburant. L'argent des ventes sera reversé à des organisations de charité. Chaque année, les Finlandais consomment environ 7000 tonnes de jambon à Noël. Neste préfère ne pas donner d'estimation sur la quantité de graisse qu'elle espère recycler car, d'après des représentants de la firme, là n'est pas l'enjeu. Le but est plutôt de montrer aux Finlandais que l'économie circulaire, une économie où l'on recycle un maximum pour éviter le gaspillage, peut fonctionner. L'enjeu est d'ailleurs de taille dans le pays nordique. Le gouvernement finlandais vient en effet de dévoiler son projet environnemental pour les années à venir. Encouragé par de grosses entreprises finlandaises productrices de biocarburants, comme Neste ou UPM, ce dernier a placé ses biofuels au cœur de son projet énergétique. À l'heure où de nombreux autres pays préfèrent se tourner vers le développement de voitures électriques. Avec cette opération jambon de Noël, la Finlande veut donc montrer qu'elle ne s'est pas trompée.
Une expo photo pour refermer cette édition, celle du photographe estonien Juhan Kuus, qui a imprimé sur sa pellicule les transformations de l'Afrique du Sud pendant 40 ans. Cette plongée dans l'histoire tourmentée de ce pays fait écho aux luttes de l'Estonie pour son indépendance, Marielle Vituro.
Par deux fois, Juhan Kuus a été lauréat du World Press Photo pour son travail. Les clichés de ce photographe de l'agence SIPA compte les transformations de l'Afrique du Sud des 40 dernières années. La ségrégation raciale, la violence de la lutte contre l'apartheid, les prémices de la cohabitation entre noirs et blancs. Les photographies de Juhan Kuus, expressives, indifféremment en couleur ou en noir et blanc, placent toujours l'homme au cœur de son objectif. Des noirs bastonnés par la police, des blancs circulant armés de mitraillettes dans les bus, des écoliers, étudiants enfin, ensemble. La complexité des épreuves traversées par l'Afrique du Sud sourd de ces clichés. Son œil aguerri de documentariste, Juhan Kuus s'en est aussi servi pour imprimer sur la pellicule la vie quotidienne en Afrique du Sud dans toute sa diversité de milieux et d'époques. Trois enfants sautant dans un canal le premier jour des vacances, les festivités de la communauté homosexuelle, un paysan travaillant la terre ou une femme battant son mari ivre-mort. L'œuvre du photographe, lauréat d'une multitude de prix, est à l'aune de l'humanité, comme l'affirment les commissaires de l'exposition. Pourtant, dans son pays d'origine, l'Estonie, Juhan Kuus reste un illustre inconnu. Et cette immense exposition sur trois niveaux doit tout au hasard. L'un des commissaires a découvert le photographe à la faveur d'une recherche tout autre sur le net. Juhan Kuus est né en 1953 d'un père qui avait fui l'Estonie pour l'Afrique du Sud à la fin de la Seconde Guerre mondiale, après avoir combattu aux côtés des Finlandais contre l'Union soviétique. Sa silhouette se promenait de Johannesburg au Cap, son appareil en bandoulière. Juhan Kuus est décédé en 2015 d'une mauvaise chute. Dans le besoin, mais fidèle à ses principes, il a vécu les dernières années de sa vie dans un centre pour personnes en difficulté, tout en continuant de photographier ses compagnons.
Françoise Grelot a réalisé et mis en onde cette édition. Accent d'Europe à retrouver sur RFI.fr à la page émission.